L'artiste contemporain n'est jamais en avance sur son temps. Picasso n'est pas plus en avance sur son temps que Michel-Ange ou que Praxitèle ou que Jeff Koons, pour le reprendre. L'artiste contemporain, comme son nom l'indique, est strictement de son temps. Il ne fait jamais que parler de son temps. Il peut éventuellement le combattre, le contester, le soutenir, en profiter, faire en sorte que le profit qu'il en tire soit lui-même une forme de rébellion, ou que l'acceptation qu'il en fasse soit totalement inacceptable. Enfin, peu importe, l'ensemble des modalités sont possibles. Encore une fois, la morale n'a rien à voir là-dedans, ni même une forme de morale esthétique. C'est ce qu'il y a d'absolument formidable avec le fait que la contemporanéité soit si présente, c'est que plus personne n'a tort. Éventuellement, plus personne n'a raison non plus, mais en tout cas, plus personne n'a tort. Vous aimez la peinture d'aquarelle de marine, vous avez raison. Vous aimez les néo-géo des années 80, vous avez raison. Vous aimez Rauschenberg, vous avez raison. J'aime Fluxus, j'ai raison. Tout le monde a raison, c'est formidable. Parce qu'en fait, rien de ces distinctions, de ces différences de goût n'implique une véritable scission. Nous participons tous, évidemment de l'économie spectaculaire, ça on le sait, mais tout simplement du régime du contemporain. Et c'est vrai aussi bien d'un point de vue politique, théologique, artistique. Au besoin, nous créons des groupes, des tribus, des amis sur Facebook, enfin des choses comme ça. Mais au total, on peut vivre comme un Ukrainien du XVIIe siècle ou comme un Mormon ou comme un homme des bois ou comme peu importe. Et nous sommes tous strictement contemporains. Et tout un chacun a la profonde certitude de cette contemporanéité. C'est la modernité pour tous. Eh bien, moi je trouve que c'est un triomphe absolu de l'art, puisque nous sommes tous acteurs des représentations qui nous mènent. Non ? Alors, à quelle heure on s'arrête ? Moi, je veux bien continuer, hein. je peux continuer comme ça longtemps. Mais si vous voulez, on s'arrête. Mais je voulais juste vous lire un petit truc, histoire qu'on continue la discussion. C'est un ouvrage qui est connu, qui s'intitule « Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif ». Qui est une compilation d'un certain nombre d'articles de Frederick Jameson. Et puis avec un petit peu du lien entre les articles, enfin des choses qui étaient publiées comme articles indépendants, enfin autonomes, et puis qui ont été reliées sous forme de bouquins. Il était devenu introuvable parce qu'immédiatement épuisé, mais il a été réédité en poche aux éditions des Beaux-Arts de Paris. Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif. Alors, la notion de capitalisme tardif, pour tous les gens qui sont nés dans les années 50 ici présents, vous avez sans doute entendu parler, c'est une analyse marxiste développée par Ernst Mandel. qui était publiée en France, enfin traduite en France en 1969, je crois. Enfin, la première édition que j'ai, qui est de 69. Et en fait, Mandel, de façon très 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 intéressante, en l'occurrence, Mandel tire la conclusion de l'échec historique du communisme face au capitalisme et à ses mutations, et à comment le capitalisme a finalement réussi à surmonter ses contradictions. Et c'est en cela qu'il parle de capitalisme tardif, parce que pour Mandel, le capitalisme a réussi à triompher de ses contradictions dans le régime de la production qu'en abstrayant la production matérielle au profit d'une production immatérielle. D'où évidemment l'intérêt d'une logique culturelle du capitalisme tardif ou du troisième capitalisme, comme le dit le titre anglais de l'ouvrage de Mandel, qui est toute cette économie de la connaissance, du service, du savoir qui a été mis en place à partir en gros de Bretton Woods, enfin de la fin des années 60. Quoi. Donc, ce qui m'intéresse chez Jameson, enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent dessus, c'est très dense. Hein, enfin, mais pour aujourd'hui, juste, c'est ce qu'il disait de la fonction du postmodernisme. Pour Jameson, le postmodernisme, ce n'est pas un paradigme, enfin, un nouveau modèle de représentation de la société. C'est simplement l'opération de transcodage en elle-même qui a réussi à faire de la société occidentale qui était une société industrielle fondée sur des hiérarchies de travail et une structure en gros pyramidale dans la structure de production. Une société entièrement réticulaire, enfin, en réseau, avec des informations et du feedback en permanence, et où toute la structure du travail s'est construite davantage sur l'échange d'informations, sur la production d'informations, que sur la production d'objets, alors même que l'abondance de la société de consommation s'est faite sur une consommation d'objets. C'est la nouvelle division internationale du travail qui intéresse ici Jameson, où en gros nous avons des pays ateliers qui réalisent ce que nous leur commandons, tandis que nous leur achetons à crédit les productions qu'ils nous exportent. Enfin bon, c'est un truc qu'on comprend bien aujourd'hui. Et donc pour lui, le postmodernisme artistique est l'exemple même, puisque en effet, il s'appuie simultanément sur une dématérialisation des objets d'art et sur des systèmes d'appropriation et de recyclage, de transformation entièrement conceptuelle des images données, et non plus sur la possibilité de produire de nouvelles images. Je pense ici, par exemple, tout à l'heure je parlais de Jeff Koons, il y a une œuvre de Koons qui me plaît beaucoup, et j'espère qu'elle vous plaira également. C'est la série Made in Heaven. Made in Heaven, ce sont les photos de mariage de Koons avec la Cicciolina, actrice de l'industrie du porno. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les images de cette série ne sont pas des images pornographiques. Ou alors, il faut penser que toute représentation du Christ est une représentation d'imagerie sadomasochiste. La série Made in Heaven utilise évidemment complètement tous les codes iconographiques de la pornographie, y compris le fond dégueulassement kitsch, les tons rosés et cyan de la chair, la posture de domination du mâle sur la femelle, évidemment l'animalité ici s'impose, qui est accroupie. C'est une espèce de nudité glorifiée, là où ses propres vêtements, en fait, signent une forme d'obscénité. Enfin, toute de cette image utilise le vocabulaire de l'image pornographique. Sauf que ce n'est pas une image pornographique, puisque, en réalité, c'est une œuvre d'art de Jeff Koons. Et ça ne peut pas être une image pornographique, parce que c'est une œuvre d'art de Jeff Koons. Ce que ça veut dire, c'est que la fonction de cette image telle qu'elle existe n'est pas celle qu'elle est en tant qu'image, mais celle qu'elle est dans son insertion dans la consommation, le registre de la consommation des images. À la limite, peu importe ce que cette image représente. Ce qui est intéressant, c'est que sa consommation est parfaitement identifiée économiquement et socialement, et que cette identification de sa consommation, l'abstrait du régime iconique auquel elle appartient. C'est parce qu'elle est un recyclage, parce qu'elle est une appropriation, qu'elle n'est pas l'image qu'elle manifestement est d'un point de vue phénoménologique. C'est ce tour de force qui retient mon admiration. Après, on peut analyser ces images en disant qu'elles sont la manifestation du détournement libidineux du désir du collectionneur, fesses égale or. Enfin, on peut avoir recours à tout ce genre d'artifices ou de systèmes analytiques. Peu importe, je ne crois vraiment pas que le discours de Koons à aucun moment soit un discours critique. Donc je ne vais pas chercher à transformer cette image en une critique de la consommation de la pornographie. Elle en est plutôt la légitimation. Ce n'est pas l'origine du monde. Ce n'est pas Mars et Vénus. Ce n'est pas Olympia. Ce n'est même pas les jeunes filles au bordel des demoiselles d'Avignon. C'est pas du tout de cela dont il s'agit. Ce n'est pas Caroline Schneemann que je vous montrais tout à l'heure, dévidant son papier. Pour la petite histoire, dessus était écrite, enfin, manuscrite même, toutes les critiques sexistes rédigées contre elle par des critiques d'art masculin qu'elle déclamait au fur et à mesure qu'elle les déroulait de son vagin. Voilà. C'est donc bien différent. En même temps, ça n'est possible que parce que Warhol est possible. Ça n'est possible que parce que les néo-avant-garde des années 60 ont fait de la sexualité ou de la pornographie le lieu d'un combat politique dûment remporté. Annie Prinkle, les actionnistes viennois, enfin, je pense à cette performance de Automul, par exemple, où il sodomise sur scène une oie avant de l'égorger directement avec les dents. J'ai des photos, mais bon, on va peut-être pas les montrer là tout de suite. Dans un festival du porno qui est un rendez-vous militant politique, en fait. Et j'ai pas envie de dire tout ça pour ça. Il n'y a pas de nostalgie dans ma position. Entendons-nous bien. Il y a le constat de l'adéquation, je crois unique, entre une forme de coercition sociale qui fait que si nous sommes incapables de nous adapter à ce régime de la production et à ce régime des images, nous n'avons qu'à mourir. Enfin, pardon, être assisté par divers béquilles sociales du type RSA, RMI, pré-retraite, indemnité, enfin, etc. Suicide, enfin, peu importe le moyen, après tout. Et que cette adaptation, finalement, on ne peut la refuser parce qu'elle est libre, ouverte, tolérante, globale, joyeuse et profondément individuelle. Ce qui évite évidemment les réactions collectives. Enfin bon, ça c'est. Je le garde pour moi. Ce micro est trop sensible. Voilà, enfin, si vous voulez. Il n'y a pas de différence, en fait, entre des artistes qui seraient engagés dans un processus militant, des artistes qui seraient engagés dans un bling-bling particulièrement rémunérateur comme Jeff Koons. Il y a des différences, bien sûr, parce que les uns militent d'un côté, les autres de l'autre, tout ça, il y a des différences, mais point de vue vraiment ontologique, j'ai quand même, enfin voilà, il se passe rien. Il ne se passe rien d'autre que la validation du monde tel qu'il est. Le passage que je voulais vous lire de Jameson disait que notre monde, enfin, la conquête du monde par l'homme avait été achevée par la globalisation. Et que nous avions affaire à un monde entièrement culturalisé. C'est ce que disait déjà Debord avec la question du spectaculaire, hein, où on n'a accès qu'à des représentations et non plus, enfin, à des spectacles et non plus au réel en soi. Et d'une certaine manière, cette espèce de tropisme pour le réel, pour le concret, qui est si présent dans l'art des 40 dernières années, ne fait que souligner combien nous n'y avons plus du tout accès, combien tout est culturalisé. La nature, en premier lieu, bien entendu, hein, puisqu'elle doit être protégée. Si elle est protégée, c'est qu'elle n'existe plus pour elle-même. Ouais. Si le monde est entièrement culturalisé, c'est-à-dire qu'il est entièrement esthétisé, c'est-à-dire qu'il est entièrement une œuvre d'art, c'est-à-dire que l'ensemble des modalités que nous pouvons, de rapports que nous pouvons nouer avec lui est entièrement dans l'ordre de la créativité de la représentation, ce qui veut dire, enfin, vous avez bien compris d'où tout le reste du syllogisme, je n'ai pas besoin de le développer. Voilà, je m'arrête là, parce que je voudrais vraiment que vous puissiez me répondre, me dire que je me trompe, tout ça. Je serais très heureux. Il y a un micro. que je ne sois pas le seul à être audible.
D'après ce que je viens de dire en dernier, je ne sais pas si j'ai bien compris, nous sommes les acteurs culturels de notre propre vie aujourd'hui.
Bien sûr. Il n'y a qu'à voir comment, depuis 20 ans, on parle de nos corps. Comme quelque chose dans lequel il faut investir, comme un capital, le capital santé, le capital... c'est incroyable, le corps est un patrimoine dont nous sommes le principal artisan. Il faut courir, se muscler, s'alimenter correctement, ne plus boire, ne plus fumer, ne plus faire tout un tas de choses, par ailleurs tout à fait agréables. Et le corps est le premier lieu de l'esthétisation. On le tatoue, on le modifie, on le perce dans toutes les positions possibles et imaginables. On en fait la première interface entre une intériorité qui est particulièrement sacralisée et une extériorité qui est de l'ordre de la concurrence de tous contre tous. Quoi. Enfin, c'est vraiment l'idée... Il se trouve que j'adore lire la littérature féminine, mais c'est vraiment l'idée majeure de la littérature féminine. L'espèce d'emprise sur le corps et le fait que cette emprise soit indispensable pour un commerce satisfaisant avec le monde. La chirurgie esthétique, on peut multiplier les exemples, mais notre première œuvre d'art, c'est notre corps. Et d'autant plus que ce corps est... on est dans un moment... J'ai l'impression, en tout cas, de changement de paradigme entre une société mécanique et une société de l'information, entre un déterminisme mécanique et puis un déterminisme génétique aujourd'hui, où en gros tout le corps est une forme de, au lieu d'être une machine, il est devenu un espèce d'ordinateur. Enfin bon, peu importe. Donc nous sommes à la fois en mesure d'intervenir physiquement sur le corps et en mesure de le modifier génétiquement. Enfin. Intervenir de façon plus intérieure, comme ça, sur d'autres déterminismes. Donc oui, véritablement, la façon dont nous sommes au monde est une façon profondément esthétisée, oui, je crois.
À ce moment-là, il y a un moment donné, l'artiste n'existera plus. Il n'a plus besoin, raison d'être.
Alors, personnellement, c'est ce que j'espère. Mais parce que ça fait quand même un siècle et demi que l'avant-garde rejoue sa mort toutes les 10 minutes. Quoi. Enfin, on dirait un western spaghetti tellement ces morts sont esthétiques. Quoi. Mais ça c'est ce qu'ils avaient commencé par dire. C'est, vous avez commencé par dire qu'il faut brûler les bibliothèques, vider les musées. Je pense aux futuristes, au manifeste du futurisme, hein, Alice, ça doit te rappeler des souvenirs, où ils parlent du musée comme d'un cimetière, identique coudoiement de mêmes corps qui ne se connaissent pas, coudoiement sinistre de corps qui s'ignorent, etc. Enfin, ils proposent, Marinetti proposait d'aller... qu'on aille une fois par an rendre ses hommages à la Joconde comme on va honorer la tombe d'un parent. Pourquoi pas, mais enfin, n'avons-nous pas ailleurs où promener nos tristesses, etc., etc. L'action, la transformation, l'effectivité, la modernité, la vitesse, tout ça. C'est vraiment, enfin, c'est le projet, le premier projet de l'avant-garde. C'est la liquidation de l'héritage. C'est sur quoi, tout à l'heure, je parlais de la façon dont la pensée marxiste infusait tout projet avant-gardiste, la tabula rasa, du passé faisant table rase, fous les esclaves debout, enfin, ça va te rappeler des souvenirs, tout ça, mais c'est vraiment le projet de l'avant-garde. On n'arrête pas de débarrasser la table. Enfin, tous les cinq ans, y a un type qui renverse la marmite. Bon, je constate qu'on a simplement inventé des nouveaux musées pour accepter toutes les marmites renversées, les tables rases et les socles vides, hein, et les statues déboulonnées. Enfin, toute espèce de méga représentation de la disparition des représentations.
C'est un peu en lien avec le fait qu'il y a encore des artistes, alors
qu'il devrait peut-être... Heureusement. Plus...
On ne sait pas. Et quand vous étiez en train de parler, moi je travaille en ce moment sur le document et la performance, et je me disais finalement, c'est marrant que tous ces artistes capro, enfin, tous ces artistes, ils aient fait des photos.
Ben, c'est pas eux, parce... en fait, mais il y a toujours eu des gens pour faire des photos, oui. Enfin non.
Mais comment alors, se sont retrouvés dans un
juste,
circuit
Juste, je te dis, il y a quand même des performances où il n'y a pas eu de photos et on n'a pas de témoignage autre que un témoignage oral ou un bout de papier ou une annotation dans un agenda, enfin des choses comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Par exemple, on a une seule photo de tout le festival Fluxus à Paris en décembre 62. C'est vraiment pas beaucoup. Il faut dire qu'il y avait personne dans la salle. Donc non, c'est pas les artistes qui ont pris les photos.
Donc les artistes.
Jamais. Enfin, très rarement. Mais il y a toujours eu des photographes qui se sont intéressés à ce qui se faisait à Peter Moore, évidemment, pour les happenings à New York. Comment s'appelle-t-il photographe allemand, j'ai oublié son nom. Enfin bref, il y a au moins deux photographes allemands auxquels je pense et qui étaient systématiquement présents dans l'atelier de Marie Bauermeister, dans la galerie de Lazzolaus, dans la galerie de Vostel à Cologne, ou à la galerie Schmela, ou chez Daniel Cordier, ou chez. Enfin voilà, il y a toujours. En France, il y avait Harry Schunk. Qui était toujours là, qui faisait du service de presse. Il y a des artistes, enfin des photographes, il y en a parce que derrière les performances, il y a pratiquement toujours une institution, même aussi ridicule qu'une association d'étudiants en art.
Et c'est là où on en arrive à... De toute façon, ça ne peut pas être... donc ces moments étaient des moments d'art et pas des moments de vie, parce que moi, quand je mange dans ma cuisine... Il n'y a pas de photographe en train de me photographier. Y a
T'es
pas
sûr
de... C'est sûr.
Moi, je ne sais pas. Sur Google Street, je suis en train de repasser à ma fenêtre. Alors, vous pourrez aller vérifier. Enfin, je vous donnerai mon adresse si vous voulez. Mais je repasse à la fenêtre. Et pourtant, je t'assure, il n'y avait personne pour me photographier dans ce moment exceptionnel d'intimité, de quotidienneté. Et pas de chance, je suis sur Google Street View en train de repasser. Non, mais... Il est très difficile d'échapper à l'image.
Du coup, c'est très difficile de faire le sacrifice du statut d'artiste, quoi.
Pourquoi ?
Bah, parce que comment échapper à une mise en musée, quoi qu'il advienne, ou une mise en institution de quelque travail fait par un artiste à un moment donné ? Et qui, du coup... Va échouer, en tout cas, dans son aspiration à vouloir qu'il n'y ait pas, plus d'artistes. Parce que si tout le monde est artiste, il n'y a plus d'artistes.
Bien sûr.
Donc, il y a un échec. Donc, il y a une vraie difficulté à... Et de la part des institutions, et de la part des artistes alors, aussi, je pense, de faire le réel sacrifice de ce statut.
Bien sûr. Mais tout comme il est très difficile à un militaire de penser qu'un pays puisse vivre sans armée, de même que il est pratiquement impossible à l'aristocratie de penser qu'on puisse la liquider et la raccourcir à la guillotine. De même que tous les pouvoirs auto-institués ont du mal à penser que le monde puisse tourner sans eux. La religion, l'art, l'armée, enfin tout ça.
Mais est-ce que l'armée s'est déjà rebellée?
Enfin, je suis un peu brutal là, mais...
Est-ce que l'armée s'est rebellée en disant on ne veut plus d'armée?
Est-ce que
l'armée, c'est déjà, l'armée d'un pays s'est déjà rebellée en disant on ne veut vraiment plus d'armée et on va se battre pour ça, tout en étant militaire, et on va le faire pendant 100 ans?
Non, mais c'est bien ce que je veux dire. Voilà. Non, mais c'est bien ce que je veux dire.
Bah, ok, pareil.
C'est-à-dire que... en même temps, il y a peu d'institutions qui aient autant joué leur propre disparition comme motif de leur légitimité à exister. Enfin, personnellement, j'en connais pas d'autres, en fait.
Le Christ, j'allais dire.
Ah, mais attention, il ressuscite. L'Union soviétique s'est autodétruite. En effet. Enfin, pas tout. Elle est quand même présidée depuis un certain temps par un ex-colonel du KGB, donc, qui, quand il n'était pas président, en était le Premier ministre. Et, enfin bon. Donc, tout de l'Union soviétique n'a pas disparu, on va dire. Hein. Le soutien à la Syrie, les bases navales en Ukraine, enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont restées, quand même. Non, mais c'est... L'art joue, voire même surjoue sa propre mort depuis 200 ans, quoi. Enfin, pas loin. Si on prend comme point de départ David supprimant l'Académie, par exemple, ça fait quand même un bout de temps, 1792, 93, 92.
Le musée existe depuis 200 ans, non ?
C'est exactement au même moment. Ceci, les collections de peintures qui ont formé le musée existaient auparavant. Enfin bon. Non, mais il est en effet très rare que une fonction, une institution décide d'elle-même de se saborder. Mais en même temps, encore une fois, il en est peu qui se réclament de leur propre disparition comme moyen d'existence. Et encore une fois, moi j'apprécie beaucoup hein, les productions des artistes, c'est pas le problème. Hein, je passe ma vie dans les expos et dans les musées, tout ça c'est très bien, je gagne mon pain avec. Donc je vais pas me plaindre. Hein. Mais je constate simplement que ceux qui ont essayé d'en tirer les conséquences, je parlais tout à l'heure de Georges Matsounas. Georges Matsounas, on lui a dit, l'art, les avant-gardes, la montée Young, tout ça, c'est la dématérialisation, c'est la disparition, c'est le concret, etc. Donc il écrit un article, enfin une conférence en 1961 qu'il présente à la galerie Parnasse à Wuppertal et il dit oui alors le concret c'est taper sur le piano avec un marteau, c'est l'accessibilité à tous de l'art, c'est finalement donc cette pulsion créative qui est bien différente de la création. Et puis après il fait un manifeste deux ans plus tard, février 63 à Düsseldorf ou janvier, enfin peu importe, qui est le moment où il se sépare de Joseph Beuys, d'ailleurs. Dans le manifeste, il dit, bon, il faut purger le monde de l'art de l'européanéisme, il faut purger le monde de l'art de l'élitisme, il faut purger... voilà, Fluxus, c'est une grande... C'est un tsunami qui va nettoyer le monde de l'art et lui retirer... tous ses faux amis et ses vrais ennemis. Un an plus tard, 1964, il écrit le manifeste Fluxus Art Amusement, dans lequel il dit que les artistes font des choses compliquées, qu'ils obscurcissent avec des théories incompréhensibles pour continuer à légitimer leur existence. Et que Fluxus, c'est un art que tout le monde peut faire, que tout le monde peut trouver, que tout le monde peut pratiquer, qui est joyeux, qui est drôle, qui est sympa, enfin tout ça. Et donc, les artistes sont voués à disparaître. Au même moment, il écrit à un jeune homme qui a rejoint Fluxus, qui était son assistant quand il était en Allemagne, Thomas Schmidt. Il écrit une lettre que tu connais sans doute, où il lui dit « Les buts de Fluxus sont sociaux, pas esthétiques. Tous les artistes Fluxus travaillent et puis ils font Fluxus sur leur temps libre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quand même pas vivre au crochet de ta mère. Reprends tes études de maths, enfin, fais un truc. Tu vas pas devenir artiste professionnel. Les artistes professionnels sont morts, n'ont plus d'avenir. Et aucun artiste professionnel ne peut être Fluxus. Faut être cohérent. » Et puis, du coup, il s'est mis à expulser des gens ou à leur dire, mais enfin, prima donna, tu veux profiter de la communication, de la propagande que je fais pour Fluxus, mais en fait, tu es un vrai artiste, tu joues pas le jeu, tout ça. Enfin, il s'est retrouvé tout seul. C'est très clair. Dickie Gins, Joseph Beuys, Namyun Paik, George Brecht... Enfin, on peut les citer, quoi. Enfin, il y a des gens quand même qui ont Daniel Spoerry, Robert Filliou. Enfin, il y a des gens qui ont atteint quand même un certain degré de notoriété, on va dire, ou de célébrité. Quand on leur a dit, t'es soit artiste Fluxus et donc t'es pas artiste, soit t'es pas Fluxus, ils ont tous choisi de pas être Fluxus. Hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Lui, il croyait que l'esthétique de l'avant-garde, c'était une éthique. Pas de chance, c'était une éthique au sein de la création. Et certainement pas véritablement une conduite. Et il s'est retrouvé absolument seul. 65, il organise le piquet devant Original, qui est une espèce de tarte à la crème. Pseudo-happening, musique concrète, machin, de Stockhausen. Parce que Stockhausen, en 54, 55, 56, 57, je ne sais plus, a déclaré dans une conférence à Harvard que, en gros, le jazz, c'était de la musique de sauvage, que ce n'était pas intéressant, enfin, etc. Donc, avec Henry Flint, qui est un autre type tout à fait intéressant dans le genre, ils ont interdit à tous les artistes Fluxus de participer à cette performance de Original. Pas de chance, il y avait un certain nombre des solis de l'opéra Original qui avaient été proposés et faits par Paik en particulier, par Vostell et par d'autres, quand la pièce avait été montée en Allemagne en 61 pour la première fois. Donc il s'est retrouvé à empêcher ses propres artistes d'aller participer à une performance pour des motifs politiques, parce qu'il fallait être cohérent d'un point de vue politique. On ne pouvait quand même pas soutenir un type qui était payé par des industriels ex-nazis pour faire de l'art moderne, et qui en plus était raciste, avait dénigré le jazz, en pensant qu'il pouvait être réellement un artiste d'avant-garde. Il fallait être cohérent. Mais la cohérence, ça a été que tout le monde a choisi d'aller jouer avec Stockhausen, en l'occurrence avec Alan Kaprow qui montait l'œuvre de Stockhausen, parce que la visibilité était assurée. Point. Le fait que les arbitrages individuellement ne fassent aucun doute, ça change rien au fait que ça soit éventuellement incohérent. Enfin, il me semble. Voilà, moi, je parle de cette position de Matunas parce que finalement, il a été vu comme un fou, ce qu'il était probablement par ailleurs, enfin, mais peu importe, en tout cas au moins un type névrosé. Mais à aucun moment, les gens qui ont travaillé avec lui ne l'ont pris au sérieux. Sans doute, heureusement d'ailleurs, je n'en doute pas, mais à aucun moment, ils ne l'ont pris au sérieux. Alors aujourd'hui, on a une image de Fluxus qui est rebelle, révolutionnaire, subversive, en résistance, tout ça, tout ce qu'on veut. En réalité, on s'appuie sur l'image produite par Matunas qui a en réalité échoué. Pour sauver la peau de types qui, eux, ont fait tout à fait l'inverse. Enfin, c'est... tu renieras, tu parlais du Christ tout à l'heure, tu renieras trois fois mon nom avant le chant du coq. Mais c'est exactement ça. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ces reniements, précisément, l'institution peut naître. Le rapport entre reniement et hagiographie, il est validé depuis 2000 ans. Ça, il n'y a pas de problème, ça marche. Ça tombe bien, c'est quand même le premier commanditaire d'art. Historiquement, c'est imbattable. Non, mais enfin, c'est. Et il faut se souvenir que les racines étymologiques entre l'icône et l'économie sont les mêmes. Enfin, il y a un bouquin de Marie-Josée Mondzain que sans doute certains d'entre vous ont lu, qui s'intitule Image, icône, économie, qui revient sur les raisons pour lesquelles. L'Empire byzantin choisit l'iconophilie contre l'iconoclasme, et donc la possibilité de représenter Dieu, le Christ, et de réinvestir cette image de l'image du César, et d'en faire un instrument de gestion des territoires, un instrument administratif, qui est évident. Dès le départ, la possibilité même de l'image, c'est celle d'une économie et d'une administration d'un territoire, parce que c'est ce qui nous permet de construire des représentations. Et que toute économie est d'abord une représentation. Il y a un lien qui est coextensif, qui est consanguin pratiquement, et en tout cas qui est étymologique, très clairement. Mais il faut arrêter de se raconter des histoires. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que ce soit un marché, l'art. Ou une politique. Oui.
Je reviens un peu en arrière. Vous avez dit qu'il était difficile d'échapper à l'image, mais je pense que ça ne bougeait plus trop aujourd'hui. Mais je pense à des travaux, par exemple, comme ceux d'une grande partie du travail d'Alfred Ojard.
Je n'ai pas entendu.
De travail d'Alfred Ojard.
Oui.
Et qui, pour moi, sont quand même des choses qui ne sont pas dans une déconstruction ou qui n'essayent pas de taper dessus, qui prennent en compte tout ça avec les matériaux et autour de l'image, tout ça, et qui, quand même, il me semble, sont positifs. Ou le travail, peut-être je ne le mettrai pas à côté, mais photographique de, par exemple, Martin Parr ou des choses comme ça qui pour moi, ne sont pas qu'une simple ruminance comme ça ou déconstruction.
Ne sont pas
qu'une simple ruminance de choses modernes, mais qui prennent en compte des enjeux actifs de l'image et qui permettent peut-être de mieux les saisir, les développer.
Je ne vois vraiment pas en quoi le travail de Jarre ou de Martin Parr infirme ce que j'ai dit, en fait.
Dans le sens où il y a une photo de Jeff Koons, qui est un peu le pape... De ce jeu-là poussé à l'extrême, et qu'il y a quand même, je trouve, à l'heure actuelle, depuis quelques dizaines d'années, des artistes qui font réfléchir à tout ça. Et j'avais l'impression que vous disiez vraiment que c'était un peu au point mort, vraiment.
Non, c'est parce que. Enfin, je crois pas que c'est ce que je dis, ou alors ma parole a dépassé ma pensée. La question du point mort. Se pose pas. Elle se pose si on est dans une perspective historiographique moderniste où il y aurait un espèce de progrès qui fait que Picasso dessinerait mieux que Michel-Ange. Ce qui est absurde, parce qu'ils dessinent tous les deux aussi bien, enfin, d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas. Enfin, c'est pas une question de point mort. Ce qui s'est, en quelque sorte, évanoui en même temps que la modernité, c'est la pensée historique. Ce que l'on a perdu finalement essentiellement, c'est peut-être la pensée historique, oui, la pensée de l'histoire. L'ordonnancement, le classement, l'idée qu'il pourrait y avoir des priorités, l'espèce de procédure effroyablement discriminante qui est celle d'un logos dominant.
Vous dites on, c'est les artistes ou
non, non,
les
je vais pas de différence fondamentale entre l'artiste et les autres hommes.
Hein. Les producteurs
Et je crois que vraiment les artistes ont revendiqué le droit d'être pareil à tout le monde. Donc je considère que c'est leur position juste. Vraiment, je ne pense pas qu'ils soient différents.
C'est pour ça que je citais Martin Parr, en fait.
Pardon.
C'est pour ça que je citais Martin Parr dans ce rapport où lui, il me semblait être dans ce ferment-là, où il utilise autant une imagerie. Il n'est pas réfractaire à tout ça et il jette un œil en même temps que je trouvais.
Mais personne n'est réfractaire au kitsch. Enfin, non mais attends, c'est pas un combat le kitsch aujourd'hui. Ça dénonce rien auprès de personne. L'imagerie de Martin Parr quand même. Photographier les détails criards des classes sociales les plus populaires, c'est même pas du documentaire. Enfin, c'est. Je vois pas très bien, je vois pas très bien quel est le point que ça apporte.
Il me semble que
au contraire, ça participe pleinement de ce régime de l'iconographie spectaculaire, dans laquelle, en effet, des photos faussement amateurs. De situations de mauvais goût deviennent des icônes de 14 mètres carrés à accrocher dans le White Cube.
Ouais, c'est la question que je me posais. Ouais.
Je vois vraiment pas en quoi ça. Tu vois ? Au contraire, à la limite. Au contraire. L'espèce comment on dit magnifying d'emphase incroyable que l'on a mis sur un quotidien dont on caractérise l'exotisme comme étant strictement celui de la consommation de l'industrie de masse par les classes populaires, il est tellement dominant que c'en est effrayant, quoi. On fait pas de littérature avec des bons sentiments, mais on fait pas non plus d'art, hein, si vous voulez mon avis. Oui.
Je vais revenir sur un point qui m'intéresse particulièrement, c'est le rapport qu'on peut avoir, le parallèle qu'on peut faire. Entre cette évolution de l'être humain qui souhaite ou qui devient lui-même artiste de sa propre vie, ou avec l'évolution des médias qui sont mis à sa disposition au fur et à mesure que le temps a passé. On parlait tout à l'heure de la mise en image à la télévision de quelques artistes des années 50. Aujourd'hui, il y a un vrai parallèle qu'on pourrait imaginez sur les téléréalités. Aujourd'hui, tout le monde peut être chanteur, tout le monde peut être danseur, tout le monde par la source médiatique qui est mise à la disposition du grand public ou de chacun d'entre nous.
Ce qui c'est peut-être la différence fondamentale, je crois, avec le système médiatique des années 60 et 70, tel qu'on en a pu faire la critique ensuite, c'est que. Avec le web 2.0, on a un accès à la diffusion large, à la médiatisation, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire des moyens de communication. C'est très différent de la télévision. C'est très différent de l'édition ou du cinéma ou de la radio, même des radios libres. Puisque de fait, tout un chacun... peut diffuser, toute prise de parole peut être transmise, y compris par quelqu'un d'autre que son auteur, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a une forme de rapport de force différent, d'ailleurs, qui se noue dans, On a pu voir des conséquences assez directes, par exemple, sur le personnel politique. Enfin, sans Dailymotion, pas de blague sur les Auvergnats ou de casse-toi pauvre con ou sans Twitter, pas de mail de soutien à Olivier Falorni. Enfin, vous comprenez. Donc ça change radicalement la donne. En même temps, il est clair qu'on maîtrise très très mal pour l'instant encore la façon dont presque à la manière d'une rumeur, des éléments audio ou vidéo ou iconiques sur le net se propagent. Je pense à l'affaire du cinéaste, de l'auteur de L'innocence des musulmans, qui a quand même un peu perturbé ce mois qui vient de se passer dans le monde. Son film a été tourné il y a 2 ans, a été présenté il y a 2 ans. La vidéo dont tout le monde parle est en fait la bande-annonce du film, qui a effectivement été placé sur YouTube il y a 2 ans, au moment où le film est sorti, dans une seule salle d'ailleurs, il faut bien le dire. Et la vidéo de cette, la présentation de cette bande-annonce a été traduite en arabe il y a 1 an. Et ça fait donc 1 an qu'elle est disponible pour l'ensemble de la planète, et pour l'ensemble des musulmans a fortiori, en arabe sur le net. Pourquoi est-ce que ça se déclenche? Pourquoi est-ce que d'un coup, en quelques jours, on passe de 3000 vues ou 30 000 vues à 300 millions? Personne ne le sait. Enfin, si, on le voit bien, il y a un effet arithmétique, enfin, un effet boule de neige comme ça, qui est induit par la démultiplication à chaque regardeur de l'ensemble de ceux pour lesquels il est prescripteur de visionnage, etc., etc. Mais le contenu est présent depuis bien plus longtemps. L'efficience, en l'occurrence là, il y a une efficience sur le réel qui est assez tragique, enfin qui est réelle, qu'on peut quantifier en nombre de morts, milliards de bâtiments, milliards de dollars de bâtiments brûlés, etc. On peut quantifier directement, là, pour le coup, l'influence d'une œuvre d'art sur le réel. Ce qui est un exemple quand même assez intéressant. Il n'empêche que le net et la capacité que tout un chacun a à placer des choses sur le net n'est pas réellement une démocratisation de l'art. Pas plus que la suppression du jury n'a permis de révéler au salon, pendant la Révolution française que j'évoquais tout à l'heure, des artistes insoupçonnés. Nous n'avons pas plus d'artistes qu'à l'époque où les maisons de disques dirigeaient le monde de la variété. Eux-mêmes se cherchaient de découvrir les gens qu'il fallait, qui remporteraient le succès qui correspondait aux attentes d'une culture populaire. Aujourd'hui, ça se fait de la même façon. Enfin, les attentes sont plus ou moins établies de la même façon. Et il faut bien que l'artiste qui commence à exister sur le net trouve le soutien d'une communication de masse pour réussir à atteindre réellement une communication de masse. En dehors de quelques phénomènes rarissimes, dont cette bande-annonce de film, et encore une fois, d'une manière très tragique, l'industrie culturelle n'est pas remise en cause par le web 2.0 dans sa fonction de présentation des talents de la culture de masse. Elle est remise en cause par le web 2.0 quant à la maîtrise des copies de ce sur quoi elle possède des droits. Le vrai changement, finalement, il est là. Pourquoi est-ce que l'économie du disque, du film, etc., se transforme? C'est parce que la question de la copie a été posée, a été réglée pour le net de façon entièrement différente de tous les autres médias préalables. C'est pas la bibliothèque, c'est pas la vidéothèque, c'est pas parce que la copie finalement existe depuis Gutenberg, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais on a réglé pour le net les choses, enfin, le cadre juridique qui encadre les œuvres sur le net est parfaitement singulier. Alors que finalement, l'échange en peer-to-peer, comme on dit, n'est pas différent, pas, à part en termes d'échelle, il n'est pas ontologiquement différent de l'échange. Si moi je vous prête mon livre et que vous le prêtez à quelqu'un d'autre, et que je le photocopie et que je le montre à mes étudiants, ou... c'est pas très différent que de le laisser naviguer sur le net. Simplement, effectivement, c'est une question de volume d'un coup. C'est la globalisation des échanges qui change la donne. Mais cette globalisation des échanges, elle a amené les États-Unis à rallonger de 25 ans la durée des droits d'auteur. Parce que Michael est tombé dans le domaine public en 2000, enfin, au terme des 75 ans qui étaient prévus, ça a été rallongé à un siècle. Mais parce qu'il était invraisemblable que Michael tombe dans le domaine public. Face à ça, en tant qu'auteur, on n'a rien eu à dire sur le fait que Google ait scanné l'ensemble de nos livres. Il y a un obscur procès dans une cour du nord de la Californie, enfin, qui est toujours ensablé, tout ça, mais en attendant, les livres sont disponibles sur Google Books. Donc, non mais, enfin, voilà, ce qui change éventuellement, c'est que nous avons tous la possibilité de mettre en ligne la naissance du petit dernier, aussi bien que le tsunami que l'on a vécu, aussi bien que la grève des transporteurs de vélos, des Vélib lyonnais, ou peu importe, ou l'accident de voiture. Enfin, on a tous le moyen de le faire, de faire du stop motion avec ses Legos, de faire... voilà. Ça crée un marché de niche. Et parfois, ça suscite une vedette. Mais de toute façon, l'industrie culturelle suscitait des vedettes auparavant aussi. Johnny Hallyday, Elvis Presley, sont pas très différents dans leur mode d'accès à la célébrité que Lady Gaga ou... comment s'appelle-t-elle la dernière... Lana Del Rey. Qui a aussi commencé sur Internet. On creuse un petit peu, on se rend compte qu'en fait, toute sa maquette, tout ça était déjà préalisé par la maison de production, et qu'en fait, Internet sert de lieu de communication virale, pseudo-amateur, pour un produit qui est d'ores et déjà formaté. C'est-à-dire que, en réalité, ce qui marche, c'est ce qui a déjà été prévu pour marcher. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Oui, mais au-delà de ça, il y a la volonté personnelle de tout un chacun de rejoindre la famille des artistes, des gens regardés, des gens connus, des gens observés, des gens téléchargés.
Bien sûr.
Une volonté personnelle qui est offerte parce que le média existe.
Oui. Oui, avec le danger de devoir assumer socialement ce qui est des téléchargeables.
Bien entendu.
Parce que c'est tout le problème du nettoyage des profils Facebook, qui sont autant de représentations d'imago du titulaire du compte, qui ne correspondent pas nécessairement, parce que c'est un avatar au sens propre, qui ne correspondent pas nécessairement à la personne réelle, et qui parfois entre en contradiction ou en conflit ouvert avec le réel. Mais on est, parce que précisément je ne vais pas me mettre à paraphraser Schopenhauer, le monde comme volonté, comme représentation, etc. Mais ça, enfin, si c'est de l'humour, c'est de l'humour à la petite semaine. Mais enfin, parce que précisément, nous sommes tous dans ce mouvement de conquête des représentations, et d'abord de la représentation de soi, nous assumons aussi individuellement les conséquences de nos actes qui, jusque-là, éventuellement, étaient celles des artistes. je ne sais pas de, enfin, lequel est le plus artiste ou le plus héroïque entre ce type qui s'est mis debout devant l'écharpe à Tiananmen, dont on ne sait toujours pas qui il est, et les néo-punkettes de Pussy Riot à Saint-Pétersbourg. L'un et l'autre ont mal fini, vous me direz, mais voilà, on a, ce sont deux régimes du spectaculaire quand même assez intéressants. Et en même temps, l'un comme l'autre fonctionne comme information qui circule et qui va donner lieu à des réinterprétations, des réappropriations. Ça va fabriquer des œuvres. Ça, vous n'en faites pas. Ça en fabrique déjà, en fait. C'est ce qu'il y a, de, c'est ce qu'il y a d'effroyable. C'est que tout ce qui arrive fabrique des œuvres. Mais c'est aussi parce que tout ce qui arrive ne nous arrive pas, enfin, quelque part, est toujours dans la distance. Baudrillard parlait de l'accident de voiture dans la société de consommation, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Le, la litanie de l'accident de voiture est le moment de la météo. Et comment est-ce que, finalement, la télévision se devait absolument de nous déverser un flot de catastrophes, de tragédies, de choses sanglantes et horribles et tristes, pour nous montrer combien nous en étions préservés. Mais en même temps, combien elle nous menaçait. Combien est-ce que la liberté et l'abondance offerte par la consommation étaient un combat de tous les jours mené par d'autres que nous-mêmes, qui nous contentions d'en jouir, pendant que certains sur la planète, finalement, nous servaient d'anode, hein, et recevaient, ou de paratonnerre, et recevaient tous les malheurs possibles et imaginables dont on avait juste les éléments qui survenaient par la cathode, hein, évidemment, tube cathodique, à travers la télévision. Eh bien, moi, ce passage de la société de consommation me paraît un des moments où Baudrillard est particulièrement clairvoyant. Ce qui se passe dans l'écran est le sujet d'une œuvre. Ce qui se passe devant l'écran est le sujet d'une œuvre, c'est Martine Parr. Ce qui se passe entre ce qui est devant l'écran et ce qui est dans l'écran est le sujet d'une œuvre. Ce qui se passe, enfin, c'est affolant. Et suivant que l'on s'intéresse à la critique des médias, au développement personnel ou à l'interaction médias, humains, etc., on est dans trois registres de l'œuvre à peu près différents, mais en fait reposant tous sur cette même concrétion du réel et de sa mise en représentation, enfin, la plus directe possible. Au mieux encore, on regarde la télé dans le musée. Ben, c'est ce qu'on fait, non ? Enfin, on passe son temps à regarder la télé au musée. Visiter une expo, il y a des vidéos partout, des boutons, il faut appuyer, il faut machiner. Enfin, on est chez soi, on boit une bière. Enfin, vous allez voir écrit Tiravania pour prendre un artiste déjà ancien. Vous allez au palais de Tokyo. Enfin, on est chez soi. On est dans une espèce de continuité. D'ailleurs, au palais de Tokyo, les murs ne sont pas bien repeints, tout ça. Enfin, et chez soi, on a des meubles minimalistes. Ikea, si on est pauvre. Sina et Roche-Beaubois si on est un peu plus fortuné, carrément chez des vrais designers si on a quelques moyens, mais finalement c'est toujours les mêmes meubles, hein, ou à peu de choses près, les qualités, les matériaux, le prix, tout ça change, et tout ça sont des variations de Smithson, Donald Judd, le Bauhaus, enfin, c'est une immense continuité du régime des images. Et voilà, et c'est formidable. Et notre vie est entièrement esthétique. Et malgré tout, on a besoin de gens pour nous l'expliquer. Et ça s'appelle des artistes. Ouais. Mais je trouve ça merveilleux, moi. Enfin, pourvu que ça dure. Enfin, comme disait la femme de Napoléon III, hein, non, la mère de Napoléon Ier, pourvu que ça dure. Hein, mais c'est exactement ça. Enfin, moi, au premier chef, je suis directement concerné. Je veux que ça dure. Mais je suis comme l'artiste, la jeune fille tout à l'heure, qui disait, mais on peut pas renoncer à ce qui nous fait bouffer. Non, mais en effet, il faut que ça dure. Non. Non, en tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et je vous remercie de votre patience et de votre accueil. Et je vous redis combien j'ai eu du plaisir.